I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. C'est l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, les PC, les abonnements, les consoles, les manettes, les fanboys, les fangirls. C'est le numéro 192, on est en juillet 2021. Je suis Patrick Béja, je suis avec l'éminent, le séminent J.K. Loret. Et on remercie très spécifiquement aujourd'hui, pour leur soutien de cette émission, Louis Vinchon, Skinetic, Fontaine, Jonathan M., Blink et Johan Journé, le producteur de cet épisode, qui a réussi à trouver le niveau secret sur patreon.com/rdvjeux et qu'on remercie tout particulièrement. Merci à vous tous et à tous ceux qui permettaient à cette émission d'exister. Aujourd'hui, on a un programme chargé. On va parler de Sony, de Microsoft, des choses qu'ils font pour ou contre les développeurs, de ce qu'ils font à l'industrie du jeu vidéo. On a aussi des jeux qu'on va évoquer, principalement parce que J.K. a eu le temps de tester Lego Builders Journey et un petit peu de Pirate's Life de Sea of Thieves, dont j'entends des bonnes choses. On aura d'autres petites choses à évoquer également. Et je termine en disant qu'en after show, après l'émission, pour les auditeurs qui ont accès au podcast privé, c'est-à-dire ceux qui soutiennent l'émission, on va peut-être avoir une petite discussion entre les fans et les fanboys. J'ai été sur Twitter et j'en ai eu marre du sujet Video Games, qui est, en fait, on peut suivre des sujets, je ne sais pas si vous saviez, sur Twitter. C'est tellement plein de fanboys, de débilos, c'est insupportable et ça m'a fait réfléchir à quelle est la différence entre un fan et un fanboy, quelle est la limite. Il y aura peut-être une conversation intéressante à avoir dans l'after show. Bonjour J.K., est-ce que tu es un fan ou un fanboy, toi ?
Oh non, juste fanboy, non. Je crois que c'est... Non, fan, oui, peut-être. Mais
même peut-être, t'es même pas sûr de fan. Très bien. Ça va, t'es en forme ? Tu survis à la darksolisation de la parentalité avec un deuxième rejeton à gérer ?
Ouais. On va dire que... Oui, on survit. On survit pas trop mal. Écoute, ça se passe de mieux en mieux, à vrai dire. Enfin, ça fait qu'un mois, donc tu vois... ce soir, je vais peut-être pouvoir sortir à le cinéma, tu vois, ce genre de truc
assez incroyable.
Fou. Mais non, puis, bah, surtout là, j'ai un mois et demi de vacances qui m'attend d'ici deux semaines, là, donc j'ai bien hâte.
Sympa. Les vacances avec les deux enfants, je te trouve bien courageux. Écoute, merci en tout cas de revenir dans l'émission après la naissance.
Ah, ça m'a manqué.
C'est toi qui nous a manqué, J.K. Grand plaisir de te retrouver. Et puis, on a un programme sympathique. On va commencer avec une histoire un peu... Oula, je fais bouger la webcam en faisant bouger le bureau, pardon. J'espère que la chatroom ne m'en tiendra pas rigueur. Évidemment, on est en live sur Twitch à midi, le jeudi midi, comme tous les jeudis midi. Et on est très heureux de retrouver également la chatroom active et pleine de bons commentaires, comme toujours. Et je suis sûr qu'ils auront des commentaires intéressants pour le premier sujet. Donc, je ne sais pas si tu as vu cette histoire des problèmes que pose Sony aux pauvres petits développeurs indépendants qui n'ont rien demandé et qui se font taper sur la tête pour leur présence et leur gestion du PlayStation Store et de leurs jeux dans le PlayStation Store. Est-ce que tu as vu cette histoire tourner ? J.K., tu t'es muté ? Non ? Je ne sais pas. Tu as disparu ? Eh bien, dites-moi, peut-être que les enfants sont arrivés, en fait. Du coup, je vais expliquer de quoi il s'agit. Non, mais vraiment, J.K. a disparu, donc je ne sais pas ce qui se passe. J.K., problème de micro. Eh bien, c'est bien le RTX Studio, là. Bravo, allô. Nvidia. Oui, allô. Tu es de retour.
Tu m'entends ?
Oui, c'est bon.
Ok.
Bon, c'est RTX Voice.
J'ai coupé Nvidia. Et je l'ai coupé, d'accord. C'est plus simple.
Allez, hop, donc, voilà. Est-ce que... Est-ce que tu as, ouais, tu as entendu donc, parler de cette histoire?
Non, pas du tout. Pas du d'accord. tout. C'est vrai que j'ai regardé un peu le conducteur ce matin et autant les autres sujets, j'ai bien vu, mais alors ça, je suis complètement passé à côté. Donc, bah ça, explique-moi tout.
Ça fait 24 heures environ, un petit peu plus, qu'il y a une grosse controverse du côté des Indés. Alors, ça ne va pas non plus faire la une de tous les podcasts, tous les magazines de jeux vidéo, mais sur la gestion ou le traitement dont sont victimes les indépendants par PlayStation, par Sony, et en particulier sur le store et la gestion de leurs jeux sur le store. Il y a des choses qui ressortent un petit peu, je ne vais pas dire croustillantes parce que ça serait exagéré, mais intéressantes. Et il y a essentiellement deux domaines qui ont fait les gros titres. Un que je comprends bien, un que je comprends moins bien. C'est venu du développeur A.N. Garner de Neon Doctrine, qui est un développeur indépendant. Je ne me souviens plus ce qu'ils ont fait, Neon Doctrine. Je vais aller voir Neon Doctrine, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, bah, c'est vraiment des petits jeux. Hein, voilà, c'est pour ça que je ne m'en souvenais pas. Il y a Project Altea, Doors of Insanity, Hazel Sky, etc., etc. Donc, c'est vraiment, on est dans le domaine Lamentum, on est dans le domaine de l'indé. Et il a posté un fil sur Twitter pour dire à quel point il était mécontent du traitement dont Sony, que leur réservait Sony. Et c'est vrai qu'on a entendu il y a quelques semaines déjà que Sony ne faisait plus très attention aux indés. Et donc, il y a deux domaines qui ont retenu mon attention dans ces complaintes. Le premier, c'est la gestion de la mise en avant des jeux. Il se plaint qu'il est très difficile d'obtenir une place sur le store, une place mise en avant, donc dans les premières pages du store ou dans les sections qui sont réservées à la mise en avant, justement, à la publicité, on va dire. Et il se plaint que ça peut coûter coûter au minimum 25 000 dollars d'avoir une place sur ce store. C'est scandaleux. Les indés, ils s'en foutent chez Sony. C'est lamentable. Alors ça, je résume, hein, je paraphrase. Mais il était vraiment pas content. Et d'ailleurs, il a pas nommé la plateforme. C'était un petit peu bizarre parce qu'il disait « Ouais, je m'en fous de brûler les ponts », mais il n'a pas nommé la plateforme. Il dit « C'est un opérateur de plateforme qui fait des consoles et qui n'est pas Microsoft et qui n'est pas le Game Pass ». Ok, bon, à un moment, il y a des trucs que tu peux dire, quoi. Bref, l'autre aspect, c'est les problématiques de gestion du prix sur la plateforme, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes, visiblement, les indépendants, à faire accepter les promotions à Sony. C'est-à-dire que Sony peut refuser de vous donner une promotion sur le store. Ça fait partie de la gestion du store, des contrats qu'on signe. Et en plus d'une lourdeur administrative qui est particulièrement handicapante, ils n'ont pas d'informations sur la manière dont leur jeu, les performances de leur jeu avant un bon moment. C'est très lourd. J'imagine que ça vient de l'origine un petit peu japonaise du truc, parce que les Japonais, ils sont souvent un petit peu... comment dire, c'est pas les plus efficaces du monde, ils aiment les process. Et en plus de ça, si un développeur veut faire une promotion sur son jeu, il doit soumettre une demande. Déjà, il n'est pas sûr qu'il ait une réponse, mais en plus, la demande peut être refusée. C'est ce que disait Lucas Pope il y a 6 mois de ça, un petit peu plus, à propos de Obra Dinn, pour lequel il voulait faire une promotion, et il disait « Sonia a refusé ma demande de promotion sur PlayStation 4 ». À l'époque, c'était avant la sortie de la PlayStation 5. Donc, il y a ces deux éléments. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de c'est pas vraiment des révélations, ou si c'est mise en lumière des relations entre Sony et les développeurs en général? Mais on imagine bien que tous les développeurs ne sont pas égaux devant ce traitement. Quand quelqu'un chez Activision décroche le téléphone pour demander une promotion sur Call of Duty, j'imagine que quelqu'un leur répond, quoi. Alors que les petits indés, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça, J.K.? Ah bah, t'as encore un problème de micro, dis-moi. Ça marche pas très bien, ces histoires de Nvidia, hein. Je suis un petit peu déçu. Du coup, je vais vous dire ce que j'en pense, moi. Je trouve que autant la question de la promotion, je peux comprendre que ça soit vraiment frustrant. Pardon, de la promotion, c'est-à-dire de la demande de promotion. On veut mettre son jeu à moins 20, moins 30, moins 40%. Il faudrait que ça soit gérable de manière beaucoup plus fluide, que ça soit beaucoup plus accessible et d'une manière générale, que les données du store soient faciles à obtenir, etc., etc. Et autant la question de « on veut mettre notre jeu en avant ». Ah bah te revoilà, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Je comprends pas. Bon, je ne touche plus à rien.
Ok.
C'est bon. Allez.
Ouais, donc je disais, la partie, je comprends que ça les frustre qu'il soit difficile de mettre un jeu en promo, quoi. C'est un outil marketing hyper important.
Ouais.
Tu fais une campagne. D'ailleurs, ils disaient, certains d'entre eux, qu'ils vendent, pour les indés en tout cas, qu'ils vendent beaucoup plus sur les autres plateformes. Je crois même que c'était peut-être pas Lucas Pope, mais un autre indé qui disait, j'ai plus vendu sur itch.io que sur PlayStation, alors que PlayStation est la plateforme dominante de loin. Donc ça, je peux comprendre. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Bah, je disais juste que oui, on sent aussi un changement de politique depuis quelques temps de Sony, qui en fait va énormément miser sur ses propres écuries. Mais là, clairement, ce que ça envoie comme message, c'est qu'on mise surtout sur notre propre écurie et le reste, ça devient très secondaire. Que ce soit des petits studios indés, on en parlait tout à l'heure, mais Housemarque, alors c'est un studio indé à la base, tu vois. Du coup, on a vraiment cette impression que ça va devenir de plus en plus un store avec l'univers Sony avant tout, qui va avant tout être mis en avant. Le reste, soit ils se sont rendus compte que ça se vendait pas assez, donc finalement ils ne misent pas trop dessus. Tu vois, on sent vraiment que il y a vraiment des décisions qui ont été prises dans ce sens-là. Après, est-ce que les indés vendaient beaucoup ? Par exemple, tu vois, aujourd'hui, je pense que quand t'es indé, tu vends plus sur PC et sur Switch que sur PlayStation. Tu vois.
Bah, ils mettent en avant spécifiquement la Xbox et Switch pour dire qu'ils vendent bien sur ces plateformes-là et pas chez Sony. Donc, c'est pas que le PC, tu vois.
Oui, le PC, c'est vrai qu'il est très, très connoté indé, mais voilà, donc du coup, c'est pas forcément étonnant par rapport à tout ce qui a été vu, tout ce qui a été fait récemment, tu vois, le démantèlement des studios, etc., ce genre de truc. Ça, je trouve que ça va dans ce sens-là. C'est assez cohérent finalement avec cette nouvelle politique qui est peut-être un peu dommage parce que mine de rien, Sony, quand même, à l'époque de la PS4 et de la PS3, ils mettaient vachement en avant, notamment à leurs conférences, à l'E3, etc., des productions indées, des jeux Devolver, je me souviens, tu voyais, je sais plus, c'était Hotline Miami, Hotline Miami 2, je crois, quand on les avait vus pour la première fois
ils avaient à l'E3. Un gros programme indé, c'est sûr.
Ouais. Ils avaient un énorme programme indé. Il y a aussi, aujourd'hui, je crois que c'est Shuhei Yoshida qui est en charge de gérer les indés chez...
Shuhei Yoshida était en charge de tout l'écosystème. Voilà. Et puis il a été en quelque sorte relégué à gérer les indés seulement, qu'il aime beaucoup. Mais oui, c'était.
Ah oui, mais bon, quand on voit ça, c'est ça en fait. En fait, le Yoshida, t'as l'impression que c'est une sorte de mise au placard progressive. Tu vois, il gérait tout ce qui était Worldwide Studio, c'est ça, il me semble, avant. Et maintenant, il gère les indés, alors peut-être que c'est lui qui voulait, mais sauf que derrière, ce serait étonnant que ces décisions-là viennent de Yoshida, tu vois. Donc.
Ouais, je sais pas, moi je crois que c'est petit étonnant. Peu... Je comprends le procès de le store étant tédéluvien et c'est trop administratif et c'est compliqué d'obtenir une promo. Ça, je pense que c'est assez inacceptable, quoi. Il faudrait que tu puisses... tu dis, à moins qu'il y ait un problème dont on n'est pas conscient, que les développeurs abuseraient pour, je sais pas, faire des arnaques avec des promos, j'en sais rien... Mais il faudrait au minimum que tu puisses dire, bon, bah, de telle date à telle date, mon jeu est à moins 20, moins 30, moins 40% et que tu puisses décider toi-même. Bon, après, c'est Sony qui gère et c'est eux qui veulent, c'est leur store, c'est eux qui font comme ils veulent. Mais je comprends que ça soit frustrant pour les indés. À côté de ça, je trouve que Sony a les indés sur sa plateforme, il les montre dans leurs conférences. Je suis pas. Je pense qu'ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire de mieux. Ils ont quand même un énorme mastodonte en face avec Microsoft, qui a des moyens monumentaux par rapport à eux. Et puis Nintendo qui a remonté la pente en partie avec les indés. Et les jeux indés, de fait, généralement, les gens qui ont une PlayStation et une Switch, ils ont tendance à les prendre sur Switch parce qu'ils tournent bien et ils sont portables en plus. Je comprends qui se disent « Ok, c'est pas ce qu'on fait de mieux, nous on va se concentrer sur les gros jeux, on a des ressources limitées, donc on va faire ça ». Je pense que quand même, ça serait pas volé de se dire « Bon, on va moderniser un petit peu notre infrastructure et notre administration pour les indés ». Par contre, ce que je comprends pas du tout, c'est la plainte de « Waouh, ça coûte 25 000 dollars de mettre en avant un jeu sur le store, mais… » Qu'est-ce que t'as cru, garçon ? Tu veux juste qu'ils mettent tous les jeux indés en avant quand ils le demandent ? J'ai pas compris cette demande et cette plainte, quoi. C'est évidemment qu'ils ont un store. Alors, à la limite, ils pourraient ne pas faire payer certaines mises en avant et juste mettre en avant ce qu'ils veulent éditorialement, mais ça serait tout aussi arbitraire pour les petits jeux indés qui n'ont pas fait impression. Donc... moi, je trouve que cette demande-là, qui était l'essentiel de la plainte de Ian Garner, il a vraiment insisté sur le fait de « Mais c'est scandaleux, personne voit nos jeux, personne peut les découvrir, on n'est jamais mis en avant. En plus, ils nous demandent de faire un trailer spécifique pour leur plateforme. Bah oui, je suis pas… » Alors, encore une fois, toute la lourdeur administrative, je comprends, mais ça, je suis moins convaincu, on va dire. Mais bon.
C'est toujours le souci aussi de se plier aussi à l'écosystème d'un gros distributeur. Enfin oui, dans ce cas-là, c'est un distributeur. C'est le, on peut entendre la même chose du côté d'Apple ou de Google ou même de Steam, tu vois. Donc, il faut se plier à des règles. Des fois, les règles peuvent sembler injustes. Ça, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il faut faire avec, quoi.
C'est ça, et parfois il y en a qui peuvent effectivement être injustes, mais à ce moment on parle de ces règles-là. Là, je pense pas qu'il soit injuste que Sony dise pour vous mettre en avant sur le store, qui est la plus grosse force de visibilité qu'on a sur notre console. Bah oui, c'est pas. Enfin, je comprends que ça soit pas gratuit, quoi, et je suis sûr que Activision ils sortent. On parlait de jusqu'à 200 000 dollars. Je suis sûr qu'ils sortent 200 000 dollars pour mettre en avant Call of Duty. À la sortie, etc. C'est un magasin et voilà, bref. Bon. Ou alors, ils pourraient dire, non, on fait que des mises en avant éditoriales, ils pourraient, mais ça, c'est pas pour ça que tous ces indés se retrouveraient avec plus de visibilité, je pense. Bref, voilà pour cette petite partie controverse que je voulais évoquer. Il y a aussi une série de news du côté de chez Sony, et puis une série de news du côté de chez Microsoft. Ghost of Tsushima Director's Cut qui est apparu dans la base de données de l'ESRB, l'équivalent du PEGI aux États-Unis. Donc il pourrait y avoir un Ghost of Tsushima Director's Cut qui pourrait arriver bientôt. On sait qu'il y a une conférence Sony qui est rumeurisée depuis quoi ? Ça fait des semaines, depuis le début de l'E3, qu'on entend que ça va peut-être arriver bientôt. On entend la date du 8 juillet, donc dans une semaine tout pile, ça pourrait arriver, il pourrait parler de ça, et c'est d'autant plus intéressant que on a eu aussi des rumeurs d'un DLC, DLC vendu à part, indépendant, qui s'appellerait Ghost of Ikishima, qui serait donc l'équivalent de Spider-Man Miles Morales, mais pour Ghost of Tsushima, ça me paraîtrait complètement logique, il pourrait le vendre à, je sais pas, 40 boules, 50 boules, un truc comme ça sur PS5, avec un remaster gratuit, pas un remaster, mais une mise à jour, je sais pas, graphique peut-être, gratuite de Ghost of Tsushima, puisque c'est une version Director's Cut, je sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais c'est comme le Director's Cut de Death Stranding, dont on a entendu parler à l'E3, bref, du nouveau pour Ghost of Tsushima qui pourrait arriver. Sony a également annoncé le rachat de Housemarque, les développeurs de Resogun à l'époque de la PlayStation 4 et très notablement Returnal il y a quelques mois de ça. Et on a même eu un petit fail de la part du Twitter japonais, je crois, du blog japonais, où ils ont publié une image non pas avec Housemarque, mais avec Bluepoint, le logo de Bluepoint. Bluepoint qui est le remaker favori de la plateforme Sony. Ils ont refait tout un tas de jeux. Je crois que c'est eux qui avaient fait Shadow of the Colossus, Demon's Souls, enfin tout cela qui était super bien remasterisé. Et donc, il n'est pas du tout impossible qu'ils soient les prochains, mais ces deux acquisitions, enfin en tout cas une confirmée qui est intéressante, on peut parler du reste après, mais déjà sur ces deux points, j'imagine que ça t'emplit de joie.
Ouais, enfin, oui, honnêtement, après, quand enfin, moi, les rachats de studios, quand les deux parties sont contentes et que ça profite à un petit studio et qu'il va profiter de plus de moyens, j'espère que ce sera le cas, notamment pour Housemarque.
Oh, l'emplissement de joie, je parlais surtout de Ghost of Ikishima, que tu dois attendre avec impatience.
Moi, Ghost of Tsushima, j'y ai peu joué, donc j'ai pas. C'est d'un intérêt relativement relatif, je ne veux rien dire. Cela dit, ce que tu cites, la comparaison avec Miles Morales, elle est intéressante parce que moi, je trouve que, tu vois, typiquement, Miles Morales, je trouve que c'est une super expérience. C'est presque, pour moi, aujourd'hui, en tant que joueur, je trouve ça mieux ça correspond plus à ce que j'attends d'un jeu que le Spider-Man d'origine. C'est deux fois moins long, c'est beaucoup plus resserré. Tu vois, en termes d'intrigue, ça s'éparpille pas. Tu t'ennuies pas une seule seconde. Et j'aime beaucoup la proposition d'un Miles Morales, justement, qui va me proposer un condensé d'un open world sans les à côté un peu chiants. Et pourquoi pas, on peut imaginer un truc comme ça pour Ghost of Tsushima qui pourrait du coup vachement me plaire.
Complètement. C'est vrai que moi, ça me rappelle First Light. Tu te souviens de Infamous Second Son qui a vu un DLC indépendant qui s'appelait First Light. C'était exactement ça. C'était une 5-6 heures, quelque chose comme ça. Donc un peu moins long.
Mais c'est le même studio en plus.
Ouais.
C'est vrai. Carrément.
J'avais adoré cette expérience alors que je m'étais un petit peu perdu dans Second Son. Et c'est vrai que ça pourrait être un petit peu la même chose. Moi, je vais aussi me jeter dessus. Je t'avoue que Ghost of Tsushima, il s'éparpillait beaucoup. Hein, c'est vrai. Mais donc, le rachat de Housemarque, on le sentait venir. Hein, je crois que c'était sur la sortie.
C'est la suite logique. Hein. Ouais, c'est vraiment la suite logique. A priori, Returnal est un succès critique. J'imagine que c'est un succès public aussi, parce que de toute façon, les joueurs qui sont sur PS5, ils n'ont pas beaucoup grand chose à se mettre sous la dent. Et en plus, c'est vraiment un bon jeu, donc voilà. Et c'est chouette. Après, est-ce qu'ils vont continuer? A priori, ils ont dit qu'ils allaient forcément se développer en termes de budget avec des jeux plus ambitieux au niveau technique. Etc. Donc il y aura, je pense qu'ils vont, il y aura pas de Resident Evil 3 tout de suite ou 4, je sais pas où est-ce qu'on en est.
On peut imaginer qu'ils auront un peu plus de moyens. J'aimerais bien aussi quand même qu'ils restent sur des jeux, on va dire double A, pour que les studios Sony aient différents types de productions. Pour les énormes triple A qui tâchent, ils ont quand même, Naughty Dog, Sucker Punch, Insomniac,
Santa Monica,
voilà. Enfin bon, ils ont de quoi faire, quoi.
Non, et surtout, j'aimerais qu'ils gardent leur ADN un peu arcade, parce qu'eux, ils viennent vraiment de l'arcade. C'est vraiment des jeux de scoring et tout. Même Returnal, là, à sa façon, est très très arcade. Et j'espère qu'ils vont garder cet ADN là, quoi.
Ouais. Et on imagine que Bluepoint pourrait être annoncé dans pas trop longtemps aussi. À propos de gros jeux, Insomniac est en train de recruter pour un projet multijoueur, il semble. Je serais curieux de voir ce qu'ils peuvent faire, Insomniac, avec un multijoueur.
Sachant que c'est pas du tout un studio qui est spécialisé en multi.
D'aucuns se prennent à rêver d'une version multijoueur de Sunset Overdrive, par exemple. On peut imaginer il y en avait dans le premier. C'était une exclu Xbox, effectivement. Il y en avait un mode multijoueur dans le premier, mais peut-être un développement un petit peu plus poussé, ou on ne sait pas, on verra. De toute façon, Sony se concentre sur le solo, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas, comme l'ont dit certains, qu'ils ne peuvent pas tenter des choses aussi sur le multi, évidemment. Et puis, en conclusion, chez Sony, il y a les jeux du PlayStation Plus de ce mois-ci, qui, encore une fois, contraste lourdement avec les jeux Xbox Live Gold de ce mois-ci, on est en juillet, donc de ce mois-ci. Ce mois-ci, sur PlayStation, on peut compter sur Black Ops 4 sur PlayStation 4 et A Plague Tale Innocence sur PlayStation 5. Je crois que c'est comme ça que c'est divisé. Il y a aussi un ou deux autres jeux sur PlayStation 4, mais qui sont peut-être moins importants. C'est quand même un énorme morceau, Black Ops 4. Moi, je vous avoue que je suis surpris de le voir débarquer. Il fait partie de ces jeux pour lesquels j'hésitais à me lancer, à l'acheter. Et là, je vais pouvoir le tester. Je suis bien content de me faire quelques heures peut-être de Black Ops 4, de la campagne folle.
Parce qu'il n'y a pas de campagne sur Black Ops 4, justement. Ça avait été reproché à l'époque, c'est un jeu 100% multi.
Ah, je me trompe. Ah, du coup, je m'en fous, c'est celui de l'année dernière. Enfin, de l'année.
C'est pas celui de l'année dernière. Tu confonds avec Cold War qui est sorti l'année dernière.
C'est ça. C'est celui encore. Oh là là. Mais oui,
non, il est pas terrible, hein, Black Ops 4.
Ok, bon bah je retire ce que j'ai dit, honte à PlayStation, oui. C'est lamentable, surtout que A Plague Tale Innocence, il est uniquement sur PlayStation 5, c'est ça? Ou alors il est sur alors, PlayStation 4?
Je t'avoue que je comprends pas, parce que c'est à la base c'est un jeu PS4, donc peut-être il va peut-être y avoir une mise à jour en next-gen, ce qui serait plutôt bien.
Il y a effectivement...
Je vois pas pourquoi tu pourrais pas y jouer sur PS4, quoi.
C'est la politique de Sony, il te l'offre si tu as une PlayStation 5. Voilà, c'est pour les gens,
pour
les chanceux qui ont réussi à en avoir une.
Et Tales, c'est Gotti, hein, c'est mon Gotti l'année dernière, il y a deux ans, ouais. Je sais plus.
En plus, il y a toute une controverse avec qui va avoir droit à l'update PS5 ou pas. Si tu l'as eu dans le PS Plus, tu vas pas avoir droit à l'update PS5
comme
si tu l'as acheté.
Final Fantasy 7 Remake, ouais.
Exactement.
À voir, ouais.
Non, si, attends, si, Final Fantasy VII, ah oui, si tu l'as, c'est ça, exactement, c'est le même système. Si tu l'as eu gratuitement, t'as pas droit à l'update. Si tu l'as pas eu gratuitement, si tu l'as acheté, évidemment, t'as droit à l'update. Donc voilà, bien fait pour vous. mais il n'empêche, ça contraste quand même un petit peu, même avec le fait que c'est Black Ops 4 et pas Cold War, ça contraste un peu avec les jeux Xbox Live Gold, et ça nous permet de passer à la section Microsoft. Les jeux Xbox Live Gold, il y a, comme toujours, 4 jeux, 2 PlayStation, Xbox 360 et 2 Xbox One. Planet Alpha, ouais. Rock of Ages 3, Make and Break. Mm-hmm. Conquer, ouais. Live and Reloaded, et... Midway Arcade Origins, voilà les 4 jeux du Xbox, ouais. Live Gold. Je crois qu'en fait, si tu réarranges les lettres des noms de tous ces jeux, ça te fait une phrase qui est « Hey les gars, vous voudriez pas vous abonner au Game Pass plutôt ?» Je crois que c'est ça en fait le message secret, tu vois.
Oui, non, clairement. Enfin, on se demande pourquoi, d'ailleurs, on se demande pourquoi ils continuent à faire cette offre-là, parce que
légalement, il faut, tu vois, ils sont obligés. Ça fait mal.
À un moment donné, je pense qu'ils vont, surtout, ils vont arrêter l'offre Xbox Live. Il y aura une offre unique qui sera le Game Pass avec tout dedans, et puis basta, et puis ciao, quoi. Enfin.
Bah non, parce que le Game Pass, le Xbox Live, il coûte 60€ par an, et le Game Pass, il est au minimum à 120. Donc, ils peuvent pas vraiment s'en débarrasser. C'est un boulet qu'ils ont au pied. Et maintenant, il y a déjà tous les jeux free-to-play qui n'ont plus besoin du Game Pass. Enfin, ils sont, pardon, du Xbox Live. Ils sont en train d'en réduire la valeur de manière sensible. Et à mon avis, on verra plus jamais un jeu acclamé dans le Xbox Live Gold. Ce qui, bon, n'est pas finalement si grave que ça. Moi, je trouve que c'est tout à fait compréhensible parce que le Game Pass est tellement incroyable. Ils ont d'ailleurs fait une série d'annonces sur le Game Pass, et je vais conclure cette petite partie en parlant de Dark Alliance, Dungeons & Dragons Dark Alliance, auquel j'ai rejoué un petit peu, mais ils ont annoncé avec le lancement de Windows 11 que le Xbox Game Pass est inclus, construit dans Windows 11. Il y a plein de bénéfices pour le jeu vidéo dans Windows 11, comme le Auto HDR, qui HDRifie les jeux qui n'étaient pas prévus pour. Le Direct Storage, vous savez, le Direct Storage, c'est le fait de pouvoir accéder, envoyer les éléments du jeu, les éléments graphiques du jeu, directement dans la RAM de la carte mémoire, sans passer par la RAM basique et en bypassant les processus qui ralentissent tout. C'est un petit peu ce qui fait que la Xbox et la PlayStation sont aussi rapides qu'elles le sont pour ces aspects-là. Bref, tout ça sera inclus. Le logiciel Xbox sera inclus dans Windows 11, mais revu. Le store est revu. Le Game Pass est intégré directement si on va avoir besoin de télécharger, machin. Il le pousse à fond, y compris dans Windows 11. En plus de ça, le streaming du Game Pass est désormais sur des Xbox Series X. C'était sur des Xbox One avant, il est sorti de bêta, donc tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate ont accès au streaming dans les 22 pays qui sont inclus dedans. On a accès au streaming sur PC, sur mobile, même sur iOS en passant par le site web, et on est sur des Xbox Series X et plus des Xbox One. C'est totalement l'offensive massive, et d'une part, c'est super d'avoir les jeux sur Xbox Series X plutôt que Xbox One parce que ça affecte les temps de chargement, la qualité graphique, etc. Enfin, c'est accessible, les jeux Xbox Series X accessibles de partout. Même si vous n'avez pas réussi à trouver une Series X, si vous avez une connexion correcte, bah vous abonnez au Game Pass et au Game Pass Ultimate, bah vous avez accès aux jeux en version série X. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeux exclusifs sur les séries X, mais quand même, c'est les versions série X. Et puis, en plus de ça, il y a quand même un aspect qui est important, c'est que la plateforme de Microsoft en gaming, c'est vraiment plus la Xbox, c'est le Game Pass. Et il est disponible partout. Alors, Windows 11 n'est pas encore arrivé. Il va arriver en fin d'année. Et on va dire que d'ici un ou deux ans, il sera suffisamment largement répandu pour que ça soit intéressant, au-delà du fait que le store en lui-même de Windows va être revu pour être plus facile à gérer pour les développeurs de jeux et même les plateformes comme Steam ou Epic Game Store, etc., pourront être sur le store. Ça fera des stores dans les stores, mais ce n'est pas le plus important. Il va y avoir une quantité de machines qui sont, entre guillemets, éligible au Game Pass qui va... C'est déjà le cas. Le pire, c'est que tu as déjà la possibilité de l'avoir avec n'importe quel navigateur. Donc, c'est déjà le cas. Mais intégré plus profondément dans Windows, ça va le rendre encore plus attractif, je pense. La prochaine étape, ça serait d'avoir le streaming dans les Xbox elles-mêmes. Et donc, tu pourras choisir de télécharger ou de streamer un jeu. Enfin, c'est vraiment un gros, gros morceau pour moi, quoi.
Ouais, non, c'est clair que enfin, ça va dans le sens d'une sorte d'uniformité et à terme, voilà, miser avant tout sur le service, clairement plus que sur l'appareil, enfin la console en elle-même. Après, moi, pour le moment, j'ai des réticences sur la qualité du streaming, malheureusement, enfin. De ce que j'en ai testé jusqu'à présent, alors j'ai pas encore testé les jeux en Series X, je sais pas si ça change grand chose, mais il y avait quand même une latence qui était pas très agréable. Enfin, c'était pas une expérience, c'était loin d'être aussi parfait. Enfin, c'était loin d'égaler évidemment le jeu en local. C'est pas encore parfait, quoi. Il y a encore un peu de chemin, je pense. Mais bon, ce genre de truc ne peut aller qu'en s'améliorant de toute façon, normalement.
C'est intéressant que tu me dises que c'était. T'avais toi aussi une petite latence parce que je l'ai ressenti chez moi. Et je me demandais si c'était pas parce que les serveurs étaient un peu plus loin de moi que les serveurs Stadia ou même Shadow, qui étaient beaucoup plus réactifs. Mais tu me confirmes que pour toi, qui es quand même à Paris, c'est la même chose. Chez Xbox, la latence est plus importante que chez Stadia, par exemple, pour toi.
Bah oui, et je sais que je suis pas le seul à l'avoir constaté, tu vois, mais certains collègues chez JV.com, c'est pareil. Clairement, tu vois, entre Shadow, Stadia et le Game Pass, et comment ça s'appelle, GeForce Now.
Ouais, GeForce Now qui est assez impeccable à ce niveau aussi.
Ouais. L'offre la plus sexy en termes d'offre, c'est le Game Pass, mais par contre, c'est aussi la moins performante en termes de qualité de rendu, etc. Donc, il va falloir qu'ils se rattrapent ça. Et bon, si un jour, ils arrivent au même niveau que les autres, au niveau technique, là, par contre, ouais, ils auront un sacré argument.
Je t'avoue que moi, j'ai testé, justement, j'ai rejoué à Dungeons & Dragons Dark Alliance sur le Xbox en streaming, juste pour voir ce que ça donnait maintenant que c'était sur Xbox Series X. Ça fonctionne très bien. Il y a effectivement une latence qui est plus importante. Je crois qu'il faut préciser quand on dit ça, en tout cas de mon expérience, c'était sensible, mais ça n'empêchait pas de jouer, ça rendait pas le truc injouable.
Ça restait jouable.
Ouais. C'est clairement un niveau où tu le sens et c'est pas très agréable, en particulier sur les jeux où c'est important d'avoir une réactivité importante. Mais ça restait jouable. J'ai joué, je sais pas, une heure à Dark Alliance et c'était parfaitement jouable. Donc, c'est vraiment pour n'importe qui. Vous pouvez, si vous voulez, que vous n'avez pas de console, vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate et commencez à jouer maintenant dans votre navigateur à tous ces jeux que vous devriez. Alors effectivement, avec cette question de latence et peut-être d'artefacts graphiques de temps en temps, mais tout à fait jouable. Un petit mot sur Dark Alliance, du coup. C'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur le jeu. Il est clairement un peu répétitif. On en parlait un peu la semaine dernière. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vraiment massacré dans les reviews. Moi je le trouve, c'est marrant parce que quand on l'a juste testé parce qu'il était inclus dans le Game Pass, forcément on est beaucoup moins critique que si on avait dû payer 70 boules pour. Je le trouve, clairement je l'aurais pas acheté et je recommanderais à personne de l'acheter de ce que j'en ai vu, mais en tant que distraction pour une ou deux heures, surtout si on est avec des potes, je peux imaginer que ça soit genre marrant, même si on a peut-être d'autres choses plus cool à faire, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. mais c'est juste, c'est correct. Et il y avait des commentaires intéressants sur la manière dont ça affecte l'image du Game Pass. Est-ce que c'était une erreur pour Microsoft de l'inclure dans le Game Pass ? Et je crois que ce qu'on pourrait imaginer qu'on se dit « Ah bah oui, mais du coup, tu vois, les jeux qui arrivent dans le Game Pass, c'est pas des jeux top, c'est des jeux qu'ils ont eu un petit peu au rabais parce qu'ils savaient qu'ils se vendraient pas. » Évidemment, d'une part, c'est pas les seuls jeux qui sont inclus dans le Game Pass, hein, y a aussi des gros trucs, on le dit assez. Mais d'autre part, moi je me dis, bah du coup, ça peut t'éviter de l'acheter pour tester ou de, ça te permet de te faire une idée toi-même sans avoir à débourser de l'argent. Si t'es un fan de Donjons et Dragons ou même des anciens Dark Alliance, tu te dis, ah ouais, mais j'aimerais bien tester quand même. Bah là, tu peux le faire gratuitement, même sans avoir besoin même de le télécharger, de l'installer. Tu le stream une heure et puis basta. Je trouve que, alors, il faudrait pas que tous les jeux soient de cet acabit, hein, évidemment. Mais je trouve que dans ce contexte, moi, ça ne me gêne pas du tout par rapport au Game Pass. Au contraire, je me dis plutôt, bon, bah, j'ai pu le tester, ça, fait, ça m'a fait passer une heure de ma vie et je n'ai pas besoin d'y penser plus que ça parce qu'il est dans le Game Pass, justement, et merci Game Pass pour ça, quoi. Je ne sais pas ce que si ça te fait le même effet, toi ou...
Oui, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, c'est clair que s'il y a des gens qui commencent à se dire que je ne devrais pas dans le Game Pass, c'est des conneries. Enfin, on parle pas d'un étron interstellaire, tu vois. C'est juste un jeu moyen, quoi. Mmh. Et surtout à côté de ça, comme tu dis, c'est un jeu moyen que tu peux tester gratos. Du coup, bah voilà, si ça te plaît, tant mieux. Et puis à côté de ça, je veux dire, là je suis devant la liste du Game Pass. Rien que tous les jeux Bethesda, là, t'as je sais pas combien de chefs-d'œuvre, t'as Plague Tale, t'as, enfin voilà. Il y a tellement d'excellents jeux dans le Game Pass que on peut pas décemment se plaindre qu'il y ait de temps en temps un jeu moyen qui débarque, tu vois. Enfin, ouais. Clairement,
je crois que si tout le catalogue commençait à dériver vers le jeu, tu sais, l'occasion du bac du Leclerc du coin, bon, bah évidemment, ça serait un peu compliqué, mais c'est loin d'être le cas, donc je suis d'accord, je suis pas. Il ne faudrait pas que ça se répète, ne serait-ce que les jeux.
Vas-y. Oui, voilà, et je veux dire juste, ne serait-ce que les studios de Microsoft aujourd'hui. Donc Bethesda inclus, rien qu'avec cet ensemble de studios-là, ils ont la garantie d'avoir des gros... Alors, je ne dis pas que ce sera forcément tous des bons jeux, mais ce sera des grosses productions dans tous les cas. Ouais. Donc, je veux dire, derrière un double A de temps en temps, ça va, c'est pas la mort.
Je crois qu'ils ont encore du chemin à parcourir, on va dire, avant que les gens commencent à se dire « Ouh là là, il y a Dark Alliance sur le Game Pass, je ne vais pas m'abonner. » Tu vois, non. on est encore un petit...
C'est évident.
Ouais.
Et puis il y a aussi des jeux indés, tu vois, dans le Game Pass il y a des jeux indés auxquels tu n'aurais pas forcément joué, genre Narita Boy qui est super, récemment il y a Backbone qui est une sorte de jeu film noir, un peu de jeu d'aventure, ambiance film noir avec des animaux, enfin c'est des trucs auxquels tu n'aurais pas forcément pensé à jouer en dehors du Game Pass, quoi.
Ben, c'est un peu ça qui ressort de mon attitude par rapport au Game Pass ces derniers temps. Quand j'en parlais dans l'émission, souvent je me disais « Ah ben, c'est cool parce que ça me donne l'occasion de jouer à des jeux que j'appelais les jeux passables. » Vous voyez, Game Pass, passable, c'était pas des mauvais jeux, mais c'était des jeux qui sont des petits jeux cool que j'aimerais bien tester, mais pour lesquels j'ai pas vraiment envie de dépenser le prix complet parce que j'ai pas énormément de temps et j'ai pas énormément de... Enfin, je suis pas sûr de vouloir y jouer plus que ça. Et donc, c'est cool qu'ils soient sur le Game Pass, comme ça, je veux les tester. Mais au-delà de ça, maintenant, il y a une nouvelle catégorie de jeux qui... commencent à rentrer dans le truc, qui sont aussi peut-être des jeux passables d'une autre manière, mais là, pour le coup, vraiment passables, c'est des jeux qui sont des trucs que j'aurais jamais achetés, garantis, et que je suis content de tester quand même. Et peut-être même qu'ils sont mauvais, et que c'est des jeux que, si j'avais dû les payer, j'aurais été dégoûté, mais ça n'a pas d'importance, parce que bah, ils sont inclus dans ce service que j'ai de toute façon et que j'aurai de toute façon même sans ces jeux-là. Donc, c'est vraiment du bonus, quoi. Et ça évolue un petit peu, ça fait changer un petit peu la manière dont je considère le Game Pass. Ça me permet de tester des trucs que vraiment, j'aurais jamais testé autrement. Encore plus avec le streaming. Parce qu'avec le streaming, il n'y a aucun engagement, aucun commitment. Tu es vraiment devant ton PC, tu lances ton navigateur, tu fais « Ok, stream ce jeu ». Alors, ça prend plus longtemps que sur Stadia, ça prend 15 secondes au lieu de 5, ok. Et puis, tu es en jeu, tu as ta manette connectée, tu y joues 10 minutes, 20 minutes, une heure si tu veux, et puis c'est fini. Et tu en as retiré un certain plaisir pour 0 euros. Alors, je schématise parce que bien sûr, on paye le Game Pass. Je trouve que c'est une bonne expérience à avoir, quoi. Donc voilà pour le Game Pass et les news Sony. Vous savez
Patrick,
comment...
Patrick.
Oui, dis-moi tout.
Excuse-moi, je suis désolé, je dois m'absenter 2 minutes, il faut que je descende récupérer un truc. J'ai un gars en bas.
C'est le bon moment pour faire ça, parce que je vais poser une question aux auditeurs. Est-ce que vous savez pourquoi le rendez-vous jeu existe ? Le rendez-vous jeu existe. Pourquoi ? Parce que j'aime bien parler de jeux vidéo et que j'aime bien réunir des gens compétents et sympathiques pour parler de ces sujets. Eh bien, pour faire ça, quand c'est son métier, il faut quand même avoir un petit peu de sous en compensation. Vous voyez, on aime bien être payé pour son travail, même si c'est passionnant. Et comment suis-je rémunéré pour ce travail du rendez-vous jeu ? Eh bien, c'est grâce à votre soutien sur patreon.com/rdvjeux. J'en parlais un petit peu dans le rendez-vous tech il y a 2 jours. Il y a beaucoup de podcasts en ce moment, il y a de plus en plus de podcasts et des podcasts de gens qui sont très sérieux, qui sont financés par leur boîte de jeux vidéo, de leur organe de presse pour faire des podcasts en plus de leurs autres tâches. Il y a des podcasts qui sont gérés par des grosses boîtes, etc. Et moi et d'autres, on est vraiment dans une attitude qui est très, très différente. On est dans une attitude qui est, même dans une situation qui est vraiment de, on est entre potes. Alors, on parle de ces sujets, j'espère, avec une certaine compétence, mais on est juste des gens comme ça, qui font ce métier avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de passion, mais on n'a personne derrière pour nous payer nos pattes. C'est les gens qui nous payent, et ben c'est vous, souvent, dans ce type d'entreprise vraiment indépendante. Et c'est grâce à vous qu'on peut vous proposer les émissions comme ça, alors gratuitement dans la plupart des cas. Et donc, j'apprécie énormément votre soutien. Et je voudrais vous encourager, si vous n'avez jamais considéré cette idée, peut-être que vous écoutez le podcast toutes les semaines, et vous n'avez jamais pensé, pourquoi est-ce que je deviendrais patriote ? Peut-être que ça ne vous dit rien, mais posez-vous la question. Je pense que si vous écoutez depuis un moment, ça serait cool de votre part de vous dire, est-ce que je pense que cette émission vaut un petit euro de ma part. Si la réponse est non, si vous pensez que ça ne vaut même pas un euro, cette heure de distraction, j'espère, et d'information qu'on vous offre, pas de souci, vous pouvez continuer à écouter gratuitement. Si vous pensez, ça vaut bien un euro, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux et vous abonner. Et en plus, vous aurez tous les bonus super cool qui sont détaillés sur le site en question. Donc, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors... On va continuer, on va attendre que J.K. revienne. Décidément, c'est un épisode plein de péripéties. Docteur Valhall dans la chatroom nous dit « Sérieux, oui, mais indépendant, non ?» En quoi penses-tu que je ne suis pas indépendant, mon ami ? Docteur Valhall qui est un patriote, donc je lui pose la question. Et oui, je veux que vous m'envoyiez des pattes, c'est ça, exactement. Donc... On va parler de différents jeux que J.K. a testés. Donc, on va l'attendre pour continuer la discussion. Et donc, on va faire une petite pause d'une minute. Et on est de retour. Entre-temps, je vais en profiter pour vous dire que l'astuce pour le Game Pass marche toujours. On en parlait dans la chatroom. Y a des gens qui disent « je vais m'abonner au Game Pass même si je n'ai pas de Xbox ». N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner pour 3 ans, c'est le maximum 3 ans, par Xbox, au Xbox Live, qui est, comme je le disais tout à l'heure, à seulement 60 euros par an. Et quand vous convertissez en Xbox Game Pass Ultimate, vos 3 ans de Xbox Live sont convertis en 3 ans de Game Pass Ultimate. Donc, vous pouvez avoir, pour un prix vraiment modique, 3 ans de Xbox Game Pass Ultimate. Bien sûr, il ne faut pas que vous ayez été abonné avant, mais si vous voulez tester, ça peut être un moyen de l'avoir pour un bon prix. Moi, je suis encore abonné jusqu'à 2022, je crois. Je m'étais abonné je crois que c'était en 2019, je ne sais plus. Donc voilà. Et donc, on a le retour de J.K. qui peut nous parler des jeux qu'il a testés. Et tu as effectivement testé Lego Builders Journey, qui est un jeu qu'on évoquait la semaine dernière. C'est un jeu de Lego, mais je te laisse nous en parler. Dis-nous, c'est toi qui as fait le test pour
jeux vidéo. C'est un jeu indé de Lego, on va dire ça comme ça. À vrai dire, je ne sais même pas quel studio derrière, mais c'est un jeu sous licence Lego, hein, parce que c'est un jeu Lego. Mais en fait, pour comprendre très rapidement quel type de jeu c'est très inspiré en termes de gameplay de Monument Valley, que tu dois connaître hein, sur iOS. Donc, c'est-à-dire que c'est une suite de tableaux à écran fixe, avec des personnages qu'il faut en général emmener d'un point A à un point B et jouer avec l'environnement pour débloquer le chemin. Là, ce qui est très sympa, c'est évidemment, comme c'est un jeu Lego, tout est intégralement fait en pièces de Lego, et certaines pièces, pas toutes, sont interactives, donc tu peux les prendre, tu peux construire des ponts, tu peux les enlever, etc. etc. Tu vas jouer avec des mécanismes pour activer des choses. Enfin, c'est assez simple en termes de gameplay, hein, ça se joue à la souris. Pour préciser un truc, c'est qu'à la base, en fait, c'est pas un jeu nouveau, c'est un jeu qui est sorti sur Apple Arcade il y a plus d'un an, et qui est ressorti en fait sur PC récemment et sur Switch dans une version augmentée, donc avec un peu plus de contenu. Et en fait, c'est un jeu très joli, très agréable à jouer, avec une petite histoire très simple.
Pour préciser, c'est pas du tout un jeu Lego comme les jeux Lego qu'on connaît déjà, jeux d'aventure avec Lego Batman, ouais. Lego Lord of the Rings, tout ça.
C'est pas du tout un jeu à licence, déjà. Ouais. Et effectivement, c'est vraiment un jeu très, très zen, très reposant à jouer. Mais surtout, si vous avez sur PC une carte GeForce RTX, c'est une sacrée, et pour pas dire un mot plus vulgaire, démo technique pour le ray tracing, parce que c'est absolument magnifique. C'est con à dire, hein, mais je n'ai jamais vu un jeu aussi réaliste en termes de rendu de pièces de Lego. C'est t'as l'impression vraiment Non, mais c'est photoréaliste, en fait. Et c'est dingue. À tel point que quand tu désactives le ray tracing, le jeu reste beau, mais le ray tracing apporte en fait tout ce qui est éclairage en temps réel, le système non projeté, etc. Et c'est d'une beauté, mais vraiment, c'est subjugant. Enfin, moi, à chaque tableau, j'étais vraiment bluffé par la beauté du jeu. Donc, en fait, c'est un petit jeu sympa. Voilà, c'est un petit jeu sympa à jouer et c'est surtout hyper cool si vous avez une carte RTX, parce que c'est vraiment une super démo technique pour montrer à quel point le ray tracing peut sublimer des décors. Sachant que c'est pas très long, hein, clairement en 3 heures ça se boucle, hein, c'est comme un Monument de Valley, et ça coûte je crois 13 ou 15 euros sur Steam, donc c'est pas très cher, bon, par rapport à la durée de vie, parce que surtout ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a aucune rejouabilité, c'est-à-dire qu'une fois que t'as fini l'histoire, ça aurait été sympa d'avoir un petit mode bac à sable, tu vois, avec des pièces de Lego que tu peux assembler pour construire des trucs. Là non, c'est vraiment une histoire, et il y a un début, une fin, et après c'est terminé, quoi. Ça c'est un peu dommage. Mais c'est un bon petit jeu, et surtout, techniquement, c'est un truc assez fou, je trouve.
J'ai cru comprendre que l'histoire était un petit peu, émouvante, surtout pour les gens qui ont des... C'est un petit peu abstrait, mais ça raconte quelque chose de limite dure entre...
je sais pas, peut-être que des trucs m'ont échappé, mais c'est très cryptique, hein. En fait, tu comprends plus. Personnage, c'est un enfant, un adulte, donc un père et son fils, une mère et sa fille, on y voit ce qu'on veut, mais c'est des personnages Lego qui sont pas du tout genrés ni définis, tu vois, ils ont pas de visage, etc.
C'est trois pièces l'une sur l'autre, c'est ça.
Sauf que tu comprends qu'il y a un petit et un grand, et effectivement, puis à un moment donné, ils se perdent, ils doivent se retrouver, il y a vraiment un truc d'arriver à se retrouver pour rentrer chez soi. C'est c'est pas, je veux dire, c'est pas The Last of Us 2, hein, ouais, en termes d'émotion, tu vois. C'est un peu extrême, ma comparaison, mais voilà. Mais c'est très mignon, c'est assez touchant, d'accord, et mignon, et effectivement.
C'est un peu émouvant,
franchement, comme on dit dans la chatroom. Si vous aimez les tripes à la Monument de Valais, vraiment, vous serez complètement là-dedans, quoi.
D'accord. Super, donc ça s'appelle, voilà, Lego Builders Journey, yes, et c'est disponible sur à peu près toutes les plateformes maintenant, j'ai l'impression. Mais
bah, PC, Switch et PC. Apple Arcade, voilà, sur PC, il n'y a que la version PC qui est vraiment sublime. La version Switch, je ne l'ai pas testée, je ne sais pas ce qu'elle vaut techniquement parlant, mais voilà.
D'accord. Super, et tu voulais nous dire un petit mot aussi sur Sea of Thieves Pirate Life, qui est le DLC qui gratuit qui vient d'être ouais, lancé, c'est le DLC
en fait, de
Pirates of the Caribbean, quoi.
C'est ça, exactement. Ça a été annoncé, je crois, le 3. En fait, moi, c'était juste pour revenir un peu sur ce jeu qui est Sea of Thieves. Parce qu'en fait, c'est tout frais. Hein. J'y ai joué hier soir. Alors, je l'ai pas fait en entier parce qu'en fait, c'est pour rappel, c'est quoi, ce sont des nouvelles fables. Donc les fables dans Sea of Thieves, c'est des missions scénarisées, vraiment, contrairement au reste du jeu qui est très bac à sable. Là, c'est vraiment des missions scénarisées avec une histoire, un début, une fin, etc. Et au milieu, bah, des combats, des énigmes, etc. Là, c'est une série de fables. Apparemment, il y en a pour une dizaine d'heures quand même, donc c'est plutôt conséquent. J'ai pas tout fait encore une fois, mais j'en ai fait un petit peu dans l'univers de Pirates des Caraïbes, et surtout à la fois le film et l'attraction et la force de Sea of Thieves depuis le début, moi je le dis, le redis, c'est vraiment l'ambiance, et c'est vraiment le fait de te mettre dans un univers, que ce soit à travers la musique, à travers le son, à travers les paysages, les décors, etc. Et là on est complètement dedans, avec en plus ce côté, bah, t'arrives au tout début, t'as la musique de l'attraction qui se fait entendre tout doucement de manière remixée, t'as plein de clins d'œil, des easter eggs à l'attraction, et même à d'autres trucs dont je tairai parce qu'il y a vraiment des très grosses surprises, et ils ont l'exploit d'avoir récupéré donc Jack Sparrow et David Jones, qui sont les deux protagonistes qu'on connaît de Pirates des Caraïbes. Donc il y a vraiment des cutscenes, enfin des dialogues, c'est entièrement doublé, c'est très malin en termes de, comme d'habitude, en termes de progression. Il y a beaucoup de la première partie notamment fait la part belle à la plateforme, donc qui marche plutôt bien. Donc il y a pas mal de plateformes, des trucs où il faut sauter, il faut s'aider avec les copains, avec des mécanismes, etc. Ça reste jouable en solo, et je pense que c'est même limite un des trucs les plus intéressants à faire en solo sur Sea of Thieves, parce que c'est on sent que ça a été pensé aussi pour être joué en solo. En coop c'est plus sympa parce que t'as des souvenirs, mais Sea of Thieves tout seul en général c'est chiant. Là en solo ça reste cool, et vraiment moi je suis impressionné par en fait la capacité à Rare à avoir réussi déjà à négocier, et en même temps c'est d'une logique implacable, hein. Faire un DLC Pirates des Caraïbes en Sea of Thieves, c'est totalement logique. Ils ont réussi à choper les droits avec Disney, c'est cool, et surtout ils font ça gratuitement, c'est-à-dire que dans n'importe quel autre jeu ça aurait clairement pu être un DLC à 10 ou 15 euros, tu vois, étant donné le contenu qu'il y a. Non, c'est un jeu qui est, ils fournissent ça gratuitement, et c'est vraiment vraiment très chouette, je trouve, et ça me fait dire à nouveau que voilà, si on parlait tout à l'heure du Game Pass, s'il y a bien un jeu qui met, enfin un argument pour s'abonner au Game Pass, c'est que tu peux tester Sea of Thieves, parce que c'est une expérience en multijoueur qui est vraiment formidable. C'est vraiment le truc que t'as après. En fait, moi quand je joue à Sea of Thieves, et en particulier à celui-là, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être revenu à les gamins dans la cour de récré qui s'inventent des histoires de pirates alors qu'ils sont sur un toboggan, tu vois, et avec les copains, et ils se font des bagarres avec des pneus, alors, et des balles de tennis.
On aurait dit que moi j'étais un pirate,
c'est ça.
Sea of Thieves,
c'est ça, quoi. C'est exactement ça, mais avec une réalisation absolument sublime, quoi.
C'est vraiment, tu t'évoquais le Game Pass, mais c'est pile ce genre. Moi je me suis dit, ah bon, Sea of Thieves, j'ai envie de le tester, mais j'ai même pas hyper envie de l'installer, tu vois, c'est à ce point-là. Je vais le lancer sur Game Pass, sur le site en streaming, et tu testes un petit peu. Ouais. Et si jamais tu trouves ça sympa et que tu dis, ah bah, je veux y jouer quand même en version super belle, bah, tu peux l'installer, reprendre là où t'étais sur ta Xbox ou même sur ton PC, et reprendre là où t'étais et continuer. Et tu me confirmes que ce DLC, on peut le lancer dès le début du jeu.
Alors,
peut-être que t'es pas au courant,
mais c'est extrêmement bien fait, justement. En fait, des menus principaux, t'as joué, donc le mode classique, et là t'as directement le DLC Pirates des Caraïbes. Tu le lances, tu vas être transporté automatiquement à un endroit de la carte où tu peux lancer en fait le premier chapitre. Peu importe ton niveau, enfin de toute façon il y a pas de notion de niveau dans Sea of Thieves, donc tu peux le lancer directement. Tu peux faire que ça, en fait, tu peux même limite faire que ça, il y a aucun souci, quoi.
D'accord. Bah écoute, c'est
hyper accessible.
Encore un truc que j'ai envie de tester sur le Game Pass. C'est marrant, j'ai l'impression que maintenant toutes les deux semaines, il y a deux ou trois semaines, Loïc Rallet nous parlait de Forza Horizon 4, qui d'ailleurs a annoncé qu'ils ils faisaient leur dernière update de contenu là ces semaines-ci. Mais il nous parlait de Forza Horizon 4. J'ai eu envie de lancer Forza Horizon 4. Là, tu nous parles de Sea of Thieves. J'ai envie de lancer Sea of Thieves. Et ils sont tous disponibles. Le plus facilement du monde, simplement en lançant le Game Pass sur mon navigateur, c'est assez fou, quoi. Et à un moment, j'espère que je trouverai le temps de le faire. Donc voilà. Je vais juste dire un mot rapide sur une autre grosse sortie de la semaine qui est Mario Golf Super Rush. Qui, dans l'ensemble, a l'air de ne pas avoir eu des excellentes reviews. Alors, nos amis de Game Cult ont été particulièrement sévères avec lui. Je crois qu'ils lui ont mis un 5 sur 10. Mais bon, du coup, c'est, on va dire, pour Game Cult, en ligne avec les réactions que j'ai entendues. Il y a des gens qui trouvent ça sympa, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'il rate un petit peu la cible, qu'il rate le il fait un sub par il est 3 au-dessus du par, un truc du genre, bref,
je sais plus, ouais,
la blague de golf,
je connais pas le langage golfier des golfistes,
c'est ça. Dans l'ensemble, l'analyse de la plupart des gens, c'est que Nintendo a voulu faire un truc très party game et que ça ne fonctionne pas super bien. Et donc, toute la partie Battle Golf, Race Golf, je crois, Quick Golf, Speed Golf, fonctionne pas super bien au final, et que les mécaniques de golf elles-mêmes fonctionnent pas super bien non plus, parce que c'est pas un jeu qui est très développé dans ce sens-là. Et j'ai vu beaucoup de gens qui regrettaient sans doute des vieux boomers qui regrettent le mode RPG de Mario Golf de l'époque, de celui, c'était Camelot, c'est ça, qui développait Mario Golf à l'époque. Et il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais vous aviez déjà un mode super, c'était le mode RPG, pourquoi vous ne le réutilisez pas, qu'est-ce que vous faites à essayer de réinventer la roue? Et clairement, on a l'impression qu'ils ont voulu faire un truc party, comme Mario Party, qui s'est vendu à quoi, 15 millions d'unités, un truc comme ça. Mais bon, il y a des gens qui trouvent ça sympathique, mais clairement, personne ne le trouve super réussi, quoi. Donc, au mieux, c'est « Ouais, bon, c'est pas le jeu de l'année, mais pff, ça va. » Voilà. Quelques news avant de conclure l'épisode. On parlait de jeux multiplayer tout à l'heure chez Sony. Il semblerait que Remedy ait signé avec 505 Games pour faire une version multijoueur de Control, enfin une version multijoueur, une sorte de jeu dans l'univers de Control en multi. Et là, vous vous dites, je te vois venir, JK, tu dis, ah, mais un jeu compétitif dans l'univers de Control, moi, c'est vraiment pas pour moi. Eh bien, figure-toi que ça sera un jeu à 4 contre l'environnement, encore un Left 4 Dead. Et là, JK, tout à coup, ton intérêt s'éveille.
Ouais. Disons que j'ose un demi-sourcil, allez. Pourquoi pas. Après, moi, ce qui me plairait, enfin, moi, ce que j'attends en plus, c'est plus une suite à Control, parce que voilà, Control, c'est un jeu que j'ai fait très tardivement. J'ai fait l'année dernière, je crois, même pas, ou cette année d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est bien. C'est
vraiment tu seras heureux d'apprendre que, visiblement, ils sont aussi en train de travailler, en plus de ce jeu-là en coop contre l'environnement, sur un autre jeu dans l'univers de Control qui serait plus ambitieux, donc sans doute une suite. Donc, tout va bien pour Remedy. Mais ce que je note encore plus, c'est cette histoire de jeu à 4 contre l'environnement, mais c'est l'invasion des Left 4 Dead.
C'est clair, il y a un retour à l'E3 déjà, on en a eu au moins 4 ou 5. Il y a Rainbow Six, il y a Left 4 Dead, mais Left 4 Dead beaucoup là. Back 4 Blood,
il y a Redfall, il y en a plein.
Oui, voilà. Après, tant mieux, hein. Moi j'aime bien cette formule-là, je préfère cette formule-là qu'un truc purement compétitif. Donc,
ouais. Bah oui, après, il va bien y en avoir un qui va réussir à faire son coup.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Avec les pouvoirs et tout mélangés dans Control, etc., ça pourrait être rigolo. Faut voir comment ça s'imbrique là-dessus, parce que. Mais il y a peut-être moyen de faire un truc un peu sympa en termes de combat, ouais.
Ouais, à voir. Konami serait en partenariat avec Bloober Team pour développer un jeu de la d'une des licences de Konami. Alors, Bluebird Team, vous vous en souvenez peut-être, c'est ceux qui ont fait notamment Blair Witch et plus récemment The Medium, qui était un jeu exclusif à la Xbox. Et, alors, enfin, il semble le candidat idéal, ça serait Silent Hill pour Bluebird Team, ramener la licence Silent Hill, que Konami a un petit peu abandonné ces dernières années, un petit peu comme tous leurs jeux vidéo, ou presque. Hein. Mais ça serait un bon moyen, peut-être, de se relancer dans le jeu vidéo avec un partenariat cohérent de ce type. Donc, à voir ce que ça donnera.
Ouais, le Silent Hill, c'est un énorme dossier, hein, parce qu'il y a ça. Il y a aussi toutes les rumeurs comme quoi il y aurait aussi un studio japonais qui serait impliqué dans le truc. Donc,
oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire.
Est-ce que ce sera un co-développement avec un studio japonais ? On ne sait pas.
C'est vrai qu'ils avaient annoncé il n'y a pas longtemps, ils avaient dit que Silent Hill était en travail chez un grand studio japonais. Donc oui, ça serait peut-être deux jeux Silent Hill ou une collaboration.
Ou peut-être, l'autre possibilité, c'est qu'il y ait genre un reboot ou un remake ou je ne sais pas quoi, et un nouvel épisode. Faut voir, mais c'est vrai que Bluebird Team, même si moi, bon, j'aime pas trop The Medium, mais ils ont quand même, ils ont la fibre, en tout cas, c'est des amoureux de Silent Hill, ça se sent, hein, même dans The Medium, ils avaient ramené Akira Yamaoka, donc le compositeur historique de Silent Hill, à la bande son, donc évidemment qu'ils attendent que ça, c'est faire leur Silent Hill. Quoi.
Et je fais une petite réprimande à la chatroom qui se lâche en disant « Oh, un jeu Yu-Gi-Oh, j'espère, la suite de Metal Gear Survive, une campagne solo pour le prochain PES !» C'est vrai qu'on peut rêver, on peut rêver.
Plus participe sur un PES, pourquoi pas.
Sur une campagne solo pour PES.
En plus,
en même temps, au niveau film d'horreur, l'Euro pour la France, c'était un petit peu dans ce domaine déjà. Ouais. J'ai l'impression. Moi, j'ai pas vu le match. Mais... t'as vu les gens qui se plaignent du fait que Pokémon Go soit en train de revenir à leur mode de jeu pré-pandémie et les gens s'en plaignent parce qu'ils sont habitués à ne pas devoir autant sortir pour faire leur... J'ai trouvé ça marrant, je voulais le mentionner. Mais je
suis content.
Mais je comprends en même temps. Nier Reincarnation, alors je le mentionne un petit peu par obligation parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment Nier. C'est le jeu Nier Reincarnation, c'est le jeu mobile qui arrivera le 28 juillet en Europe. Donc, si vous cherchez une expérience encore plus Nieresque sur votre mobile, vous pourrez y jouer le 28 juillet dans un petit mois. Moi, je ne m'y aventurerai pas. Voilà, je le dis. T'as vu cette triste histoire. Est-ce que tu te souviens de Magic Legends ? Est-ce que tu te souviens de ce que c'est ?
Ouais, mais alors vaguement.
C'est un jeu à la Diablo dans l'univers de Magic,
ouais,
qui a été lancé en bêta il y a 3 mois et qui avait l'air... Moi, j'y ai pas joué, hein, mais dans les trailers, ça avait l'air d'être un Diablo tout à fait compétent. Il a déjà été clôturé. Ils ont fermé la bêta, ils ont remboursé tout le monde et ils sont en train de fermer la bêta. Et vraiment, le jeu aura vécu 3 mois. Mais je sais pas quoi en penser parce que je me dis c'est bien d'avoir vu que ça fonctionnait pas et de s'arrêter avant que tu vois et de repartir sur autre chose qui peut fonctionner parce que le marché est tellement saturé de plein de trucs que tu dis on va pas aller jusqu'au bout, le lancer, tout le monde va s'en foutre, on va avoir il y a 32 joueurs simultanés sur Steam, regardez là le Magic Legends, ok c'est peut-être bien mais en même temps c'est triste pour eux, pour l'équipe qui a dû travailler des années pour développer ce truc et je sais pas quoi en penser en fait, enfin je sais pas, mais le jeu est déjà plié quoi.
Après, il y a plein de raisons. Et c'est peut-être qu'on leur a coupé les fonds parce qu'ils avaient un investisseur. Il y a tellement de choses. Enfin, c'est
probablement. Il y a peut-être d'autres raisons, mais
c'est forcément triste pour les gens qui bossaient dessus. Mais ouais, je sais pas.
Cryptic Studios, c'est un petit peu dommage. Et puis, de temps en temps, j'aime bien vous donner des chiffres. Je ne vous assomme pas avec les histoires financières, mais de temps en temps, j'aime bien donner des chiffres pour donner un petit peu une idée de l'échelle des choses dont on parle dans le jeu vidéo. Persona, qui est une franchise qui existe depuis 25 ans déjà, a vendu 15 millions de jeux pendant ces 25 dernières années. Alors, on se doute bien que la majorité, c'est sans doute ces dernières années-ci, et plutôt que dans les premières années où c'était un jeu un petit peu plus exclusif, un petit peu plus niche, et puis surtout un jeu au Japon. Mais voilà, c'est une franchise comme Persona, sur tous les titres Persona. On inclut les jeux tiers, hein, les jeux de combat, les jeux de musique, etc. Ça fait 15 millions de titres. Donc quand on dit qu'il y a un jeu qui s'est vendu à... Je crois que c'était Ghost of Tsushima, qui s'est vendu à 6 millions, je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez que c'est quand même c'est des ampleurs significatives, quoi. Et puis, en passant rapidement, l'info que la Paris Games Week n'aura pas lieu cette année non plus, malheureusement, ils reviendront l'année prochaine, mais ils ont estimé que les conditions n'étaient pas encore réunies en raison de la pandémie pour avoir une Paris Games Week digne de ce nom cette année. J'avoue que la Paris Games Week, contrairement à d'autres salon où on peut avoir des grosses annonces. La Paris Games Week, bon, il y avait Sony qui avait filé un petit coup de main au niveau des annonces de temps en temps, mais c'est tellement tard dans l'année, c'est en octobre généralement, que c'est plus le moment de faire des annonces, donc ça repose énormément sur la présence physique, et donc en faire un événement numérique, ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc je comprends que la décision a été prise dans l'incertitude de la situation dans laquelle on sera au début de l'automne, au milieu de l'automne. Donc voilà, pas de Paris Games Week cette année.
2021, globalement, c'est encore une fois une année blanche à niveau salon. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Ce sera, dans le meilleur des cas, le premier gros salon de l'année, ce sera le CES, en physique, hein. Ce sera le CES 2021 janvier, en étant optimiste. Hein. Mais c'est vrai que pour les salons de jeux vidéo, ouais, c'est clairement c'est rendez-vous en 2022. Quoi.
On est d'accord. Et puis, je ne sais pas si tu as vu cette histoire du mod pour The Witcher qui utilise des voix créées par une intelligence artificielle. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire ?
Non, pas du tout.
Alors, c'est un mod qui te donne une quête, je ne sais pas, même pas si elle est très longue, qui s'appelle A Night to Remember. Et le développeur a créé une intelligence artificielle avec la voix des participants originaux. Et voilà ce que ça donne. Release him now. I'm in a hurry and you're hiding behind a child. Ça c'est une intelligence artificielle. So this time, I'm letting you.
La vache. C'est pas mal. C'est pas mal, hein?
N'est-ce pas? I'll come back for you one day.
You realize that, right? Après, c'est un peu plus de corde au niveau du tronc.
Alors, c'est un type, c'est un indépendant qui a développé ça, et c'est marrant parce que ça a donné lieu à un article dans lequel les acteurs, les voice actors, c'est marrant parce que, alors, autant sur cette voix en particulier qui a été entraînée sur l'acteur, le voice actor de Geralt dans le jeu. Bon bah clairement, enfin c'est Doug Cockle, clairement lui je comprends qu'il soit pas content parce qu'on utilise sa voix et en plus on menace son boulot, mais d'une manière générale, les voix de qualité créées par des intelligences artificielles, elles arrivent et elles vont être utilisées. Et donc encore une fois, au-delà de l'appropriation de la voix de ce type, qui, je pense, a des ramifications légales qui devront être explorées, dont je pense qu'il y a une problématique clairement dans le mode. Mais les voice actors ont commencé à s'exprimer sur Twitter et ailleurs en disant « Oh, mais c'est dégueulasse, l'âme de l'art disparaît, ces machines qui viennent nous prendre notre travail, machin. » Et c'est peut-être parce que je suis passionné de tech aussi, mais alors je comprends la réaction et je comprends qu'il y a un petit peu un choc à un moment, mais plusieurs choses. D'une part, clairement, ça sera, on aura toujours besoin d'acteurs pour les grosses voix et pour les gens qu'on devra payer. Il y aura des projets dans lesquels on fera ça proprement, même si c'est possible de le faire avec des intelligences artificielles. D'autre part, bah, il y a des gens pour qui ça sera très pratique de pouvoir faire des voix sans avoir à payer des acteurs et à refaire des sessions d'enregistrement à chaque fois qu'ils veulent changer un truc, etc. Et donc, pour des développeurs de AA ou d'indépendants, je pense que ça va leur permettre d'intégrer des voix de manière beaucoup plus simple. Et puis enfin, il y a un truc qui est... Bah, ça va arriver de toute façon, les gars. Hein. Alors, c'est peut-être facile à dire de mon côté. Moi, j'aurais peut-être pas très content quand ça arrivera pour remplacer les podcasteurs, l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'il faut que je vous abreuve de mon humour absolument impossible à recopier par un ordinateur. Mais ça va arriver, les gars. Et il faut vous préparer à ça. Dans le domaine du voice acting, en particulier dans le domaine du jeu vidéo, ça va arriver, c'est en train d'arriver, c'est même déjà là, comme on le voit avec ce mode, c'est en train d'arriver. Donc vous pouvez pleurer et taper des pieds, mais ça ne va pas changer la réalité. Donc le ton des acteurs dans cet article m'a paru un petit peu, je ne sais pas, c'était un petit peu genre, mais enfin les gars, il faut vous réveiller, quoi. C'est vraiment un truc qui va... C'est comme, bon, c'est l'exemple qu'on prend toujours, mais c'est comme les conducteurs de calèches qui se plaignent de l'arrivée des voitures au début du siècle dernier, tu vois, à un moment, bah oui, ça va... Ça... Bon, c'est pas du tout la même chose, parce que les acteurs ont toujours leur valeur, évidemment, je suis pas en train du tout de nier la qualité du travail, mais dans certains aspects, ça va arriver, quoi qu'il arrive. Donc, bref, je voulais le mentionner.
Ouais, après, ça va dépendre des domaines, il y aura des domaines où on va attendre encore très longtemps avant d'avoir la qualité d'interprétation d'un bon doublage ou ce genre de truc, mais disons qu'entre tu sais l'époque des jeux à tout petit budget, souvent c'était des jeux allemands, un truc comme ça, qui avaient des doublages français absolument dégueulasses, tu te dis bon, tant qu'à faire, autant le remplacer par une IA, de toute façon, vu la qualité du travail, ouais. Bon, voilà.
Non mais c'est ça, je pense que dans le cas...
Je rigole, mais c'est... Moi, je suis moins... disons que je suis assez fataliste, je trouve pas ça forcément... Enfin, je vois pas forcément ça d'un bon œil non plus, mais c'est vrai que c'est difficile de lutter contre le progrès technologique. Mais par contre, après, avant que ça remplace complètement des acteurs, je pense qu'il va falloir un bon bout de temps quand même.
Ah ben ça n'arrivera, je pense. Oui, on n'y est pas du tout, quoi. Peut-être dans 20 ans, j'en sais rien, mais on n'y est pas du tout avant que ça remplace tous les acteurs, c'est clair. Mais par contre, ça offre des possibilités. Je pense que ça, c'est un aspect qu'on n'évoque pas souvent. Ça offre des possibilités à des petits développeurs d'augmenter la qualité et la valeur de production de leur jeu. Et c'est le chemin que prend toute l'industrie et les outils de développement. Aujourd'hui, un petit indé peut développer des jeux d'une qualité invraisemblable grâce à ces outils, notamment dans certains cas grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning. On parlait par exemple de la possibilité de modéliser des personnages qui n'existent pas à partir de rien, que ce soit des photos ou des visages ou même des modèles 3D entiers. C'est le cas chez Unreal, là, depuis peu, les MetaHumans. C'est des possibilités énormes pour augmenter la productivité, la capacité à créer des développeurs indés. Et ça, c'est un aspect qui est positif aussi, je trouve. La valeur d'un jeu qui aura de la voix, qui est quand même hyper chère pour un petit indé, même si encore aujourd'hui, elle ne sera pas géniale, mais peut-être que certains vont trouver des moyens de rendre ça plus acceptable avec des personnages adaptés ou des... Enfin, tu vois, ça offre des possibilités aussi. Ça abaisse l'accès à la qualité de ces productions, même si ça ne sera pas tout à fait la même chose. Certains pourront en tirer parti. Je trouve que cet aspect-là est un peu oublié dans cette discussion, quoi.
Ouais, c'est sûr. C'est vrai, t'as raison.
Donc voilà.
Tu as toujours raison. Au final, c'est Patrick qui a raison. Donc,
merci.
On le sait.
Eh bien, écoute, ma dernière recommandation, ça sera si vous avez accès aux émissions de Game Cult, vous pourriez aller voir le dernier épisode de Gaijin Dash. Leur émission consacrée à l'actualité japonaise. Et dans cet épisode, ils reviennent sur la carrière de Greg. Vous connaissez bien sûr Greg, qui est l'un des plus anciens journalistes encore en activité dans le domaine du jeu vidéo, qui fête ses 30 ans de carrière. Et c'est marrant parce qu'on a à peu près le même âge avec Greg. On s'était même croisé à plus d'une reprise. Il a participé à l'émission plusieurs fois. C'est quelqu'un qu'on connaît bien. Et on s'était croisé à plusieurs reprises. Et quand on était ados, même, on traînait dans les mêmes endroits. On allait à Junku, à Tonkam. Je le raconte de temps en temps. On s'était retrouvés. Je crois que lui s'en souvient pas, mais il dit poliment: ah oui, c'est bien. On s'était retrouvés au lancement de la PlayStation 2 quand j'habitais au Japon, à Akihabara, pour aller faire les magasins et en racheter pour des amis en Europe. Et on avait fait la queue ensemble à un moment. Et bref, il parle de sa carrière et c'est marrant parce que j'ai retrouvé toute ma vie, mon adolescence et cette confrontation en fait de la nouvelle génération et de l'amour, la découverte du Japon et des productions japonaises dans le domaine, bien sûr, du manga et de l'animé et du jeu vidéo, avec l'ancienne génération, qui était la génération qui avait grandi dans les années 70, et qui connaissait le jeu vidéo, mais pas du tout ces trucs bizarres qui venaient du Japon. Et ça m'a fait voyager complètement. J'ai trouvé cette émission qui dure une heure et demie, où c'est en fait juste traverser cette époque-là à travers le regard de Greg et de Daniel et de Puyo et de Mehdi qui est là aussi. Je dis Puyo, mais enfin bon, bref. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et si vous êtes Premium Gamekult, je vous encourage à aller y jeter un coup d'oreille. C'était un super moment pour moi. J'ai vraiment passé un moment délicieux. Donc voilà, je voulais le mentionner en fin d'émission. Puisque c'est la fin de l'épisode, et je voudrais remercier, malgré les complications, je voudrais remercier J.K. pour sa présence et pour ses témoignages.
Entre les micros et les livreurs et les gens qui pleurent, ouais, bah c'est le retour. Enfin voilà, c'est un retour chaotique, hein, parce que ma vie a changé récemment. Donc, mais oui, je suis quand même content d'être revenu.
Mais on est content de t'avoir. Voilà. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi, J.K.
On peut me retrouver sur jeuxvideo.com pour des sujets plus tech hardware, dans le journal du hardware le vendredi à 16h30, d'ailleurs on a enregistré cette semaine sur le stream, et sur ZQSD bien sûr, le podcast de jeux vidéo PC où récemment on a continué notre méthode scientifique pour élire les jeux de l'année. Cette fois-ci c'était les années 95-99 c'était 95-99 et c'était 2004 pardon, je sais plus, bref, on s'est amusé parce qu'en fait on en a fait deux et je me souviens plus, j'ai trop de mémoire. Mais bon, si vous voulez savoir quels sont les meilleurs jeux entre 95 et 2005, il faut écouter à peu près il doit y avoir quasiment 8 heures de en tout 8 heures d'émission où on élit ces meilleurs jeux là et il y a beaucoup de dons qui ont grincé pendant cette par exemple Diablo 2 qui a été éliminé comme un gros sale quasiment dès le début, c'est scandaleux. Mais bref,
il y a de quoi
boycotter Corentin Lamy, voilà, c'est ce que j'ai.
Je viens de faire une recherche sur J.K. Loret sur jeuxvideo.com et ça me dit désolé, nous ne trouvons aucun résultat avec vos critères de recherche. Je suis
Je m'appelle J.K. sur jeuxvideo.com.
Juste J.K. J.I.K.A.
Non, c'est même plus compliqué que c'est avec deux I et deux A, parce que J.I.K. c'était déjà pris comme pseudo.
Ah,
donc c'est J.I.K. avec deux I et deux A.
J.I.K. Ouais, non, d'accord. C'est... Ah bon, bah voilà, il y a des choses qui arrivent.
Je suis quasiment introuvable.
Ok, bon, bah voilà. Au moins, on pourra savoir comment solder cet été l'iPhone, enfin, comment acheter un iPhone soldé 64 Go, puisque son prix a chuté hier. Bon à savoir.
Voilà.
Et bien sûr, le ZQSD pour aller pester contre les choix de ces vils podcasters dans leurs meilleurs jeux des années qui se sont écoulées. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, exactement, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur notepatrick.com où vous trouvez tous les liens vers tout ce que je fais. Vous pouvez notamment voir les liens vers Super Laser Punch, où on parle avec notre ami Johan de toutes les séries et les films du Marvel Cinematic Universe. On vient d'enregistrer l'épisode où on parle de Loki épisode 4. Il sera publié sans doute au moment où vous écouterez ce podcast. Donc pour vous abonner, vous allez sur notepatrick.com et c'est très pratique. Il y a des petits boutons où vous appuyez et ça vous prend directement, ça vous emmène dans l'app de podcast que vous utilisez directement au niveau du podcast en question. Donc si vous cliquez par exemple, vous utilisez au hasard Podcast Addict sur Android, vous cliquez sur le petit bouton Podcast Addict dans la section Super Laser Punch, ça vous emmène directement là-bas. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur vous abonner, c'est hyper pratique. Vous avez aussi le lien vers le compte Twitch, si vous voulez nous suivre tous les jeudis midi et les mardis midi pour le rendez-vous tech. Et le lien vers le Discord, si vous voulez parler avec nous de toutes ces belles aventures. Et puis, bien sûr, le lien vers le Patreon du rendez-vous jeu, où vous pouvez soutenir l'émission et on apprécie énormément votre soutien. C'est tout pour l'épisode classique. On va laisser partir Jika et puis se retrouver avec les Patriotes pour parler de fans et de fanboys pour l'after show. Si vous êtes Patriote et que vous avez accès à l'épisode étendu, on se retrouve tout de suite. Sinon, je vous donne rendez-vous dans une petite semaine. Ciao à tous et à toutes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.